Dans la vieille rue, deuxième partie, chapitre 6. C'était la veille des courses. La coterie élégante du littoral et les châtelains des environs animaient de leur tapage les rues de la ville. Les paisibles habitants eux-mêmes, gagnés par cette fièvre hippique, se préparaient à l'événement du lendemain. Chez madame de Crussol, l'excitation était très vive. Depuis une semaine, Geneviève n'entendait parler que des paris qui s'engageaient, des déjeuners qui s'organisaient. On devait « luncher » dans les drags, sur les prés verts à l'ombre des grands arbres. On s'arrangeait par groupes, les préférences s'accusant librement, les vanités s'étalant sans vergogne. La jeune fille avait écouté tous ces projets de fête. Ses yeux ignorants s'étaient attardés sur les étoffes chatoyantes des toilettes printanières. Les cassures du satin avaient communiqué à ses doigts des frémissements d'agitation et de désir. Elle se sentait saisie d'une envie passionnée de participer à ces joies inconnues. Mais personne ne l'y conviait. Nul ne semblait songer qu'elle pût y prendre part. Si ennemie de toute contrainte que fut la comtesse Lise, elle était cependant trop soigneuse de son renom d'élégance pour s'étaler un jour de course en grand équipage à côté d'une robe défraîchie et d'un chapeau démodé. Personne d'ailleurs ne lui suggérait cette fantaisie. Serge ne désirait pas la présence de Geneviève. Il lui gardait rancune, moins de son effarouchement que de la façon dédaigneuse et froide dont elle avait accueilli ses excuses humbles et ses explications plausibles. Toute son adresse d'homme du monde avait échoué devant la droiture de la petite provinciale, et il ne lui pardonnait pas cette leçon. Le capitaine de Briard, lui aussi, ne proférait pour elle aucune requête, bien qu'il eût deviné le langage innocemment expressif de son visage. Était-ce afin de préserver leur secret? Ou bien un pressentiment l'avertissait-il d'un danger ou d'une crise à redouter? Quoi qu'il en soit, le silence de Georges à ce sujet navrait la jeune fille. Elle n'osait le rompre, ni exprimer ses désirs. D'ailleurs, l'occasion manquait. Depuis leur entrevue du jardin, jamais ils n'avaient pu parler, seul à seul, librement. Jusqu'ici, elle ne s'en était pas inquiétée. Les regards émus du jeune homme lui tenaient lieu de mots d'amour. Avec cette persistance de la jeunesse qui refuse de se résigner, elle espéra jusqu'au dernier instant. Pour entendre madame de Crussol lui dire « Vous viendrez avec nous, Geneviève !» Elle aurait renoncé volontiers à plusieurs années de vie. Mais une volonté sage ne permet pas que ces marchés nous soient proposés. Maintenant, aucune chance ne lui restait. Elle avait reçu les adieux distraits de la comtesse Lise. « Bonsoir, petite. Nous ne nous verrons pas demain. » Elle rentrait chez elle, le cœur gros, les larmes près des yeux. Maximin l'accueillit avec l'air de quelqu'un qui a une grande nouvelle à annoncer. « Si tu savais, sœur, le cousin Ernest est venu nous voir avec la tante de Toulouse. Il veut te conduire aux courses. J'espère que tu es contente. Il viendra te chercher demain dans son cabriolet et recommande que tu sois prête. » Ce cabriolet, réchampi jaune sur noir, faisait l'objet de l'admiration du petit malade. Il parlait d'un ton pressé. « La tante est arrivée exprès hier. À propos, pense, et moi qui oubliais de te dire, vous emporterez des provisions et déjeunerez sur la prairie. Comme je voudrais être avec vous. Tu es bien heureuse, Geneviève. Mais qu'as-tu? Tu es toute blanche. Pourquoi ne dis-tu rien ?» Une émotion de plaisir l'étranglait, la suffoquait. Elle se voyait avec Georges, participant aux délices de la fête. Elle oubliait qu'ils seraient séparés, ne réfléchissait pas à la différence des milieux. La curiosité et l'amour étouffaient tout autre instinct. « Si seulement tu pouvais venir avec nous !» s'écria-t-elle, mettant dans ce regret une intensité qui prouvait la vivacité de son ravissement personnel. Mais je te promets, je regarderai pour toi et te raconterai tout.
Ce n'est pas la même chose, murmura l'enfant.
Sais-tu, sœur, nous avons plus de plaisir maintenant, mais j'aimais mieux le temps d'autrefois, où tu ne me quittais jamais.
Ce reproche éteignit la joie de la jeune fille.
Désires-tu que je reste ? Demanda-t-elle d'un ton de victime prête au sacrifice.
Non, non, je veux que tu ailles, répondit le petit garçon, repentant déjà de s'être plaint.
Le lendemain, lorsque le cousin Randos arrêta son cabriolet à la porte du docteur Maoul et qu'il vit s'avancer sur le seuil Geneviève, belle à ravir, sous le chapeau de grosse paille qui encadrait son visage d'une auréole blanche, il ressentit un élan d'admiration si vif qu'il aurait voulu, séance tenante, acquérir le droit de dire à ceux qu'il rencontrait, avec sa vanité de commerçant enrichi, « Regardez ce magnifique échantillon d'humanité, c'est moi qui le possède !» Ils se mirent en route, les deux femmes dans le fond, Ernest sur la banquette de devant, guidant le cheval. La tente de Toulouse était un peu commune. Geneviève éprouvait, en l'entendant s'extasier sur tout ce qu'elle voyait, des frémissements d'impatience qui gâtaient son plaisir. Le contact de sa main rouge, gantée de gants trop courts, lui causait un malaise indéfinissable. Autrefois, rien ne la choquait dans cette cousine de son père. Au contraire, ses caresses expansives l'avaient doucement réchauffée. Même elle se souvenait d'avoir admiré chez elle certains détails de toilette dénotant la rentière à son aise. Aujourd'hui, dans la proximité que leur faisait la voiture étroite, toutes les vulgarités de la petite bourgeoise s'accusaient aux yeux plus expérimentés de la jeune fille. Elle commençait à se sentir honteuse de ce voisinage, et lorsqu'une voiture de maître passait près d'eux, se rejetait de côté, de crainte d'être vue par les amis de la comtesse Lise. Cette répugnance, en s'accentuant, la rappela à elle-même. Elle fut confuse de sa petitesse, et, afin de s'en punir, prit dans les siennes, avec une effusion repentante, la main commune qui venait de révolter ses instincts nouvellement raffinés. Cet acte de contrition enfantine ramena dans son cœur les émotions heureuses. La journée était à souhait. Toutes les fleurs du midi embaumaient l'air de senteurs vives. Les cistes couvraient les collines d'un manteau rose pâle. Geneviève, reprise par ses rêves d'amour, se laissait doucement emporter au trot du cheval, les yeux perdus, les lèvres entr'ouvertes. De temps à autre, Ernest Randos se retournait pour la regarder, avec ce regard ouvertement tendre et satisfait de l'homme qui ne doute pas de sa réussite et qui n'a que des désirs honnêtes. Il y a quelques semaines, la jeune fille n'aurait pas compris. Maintenant, une science nouvelle lui était venue, et elle rougissait violemment sous cette éloquence silencieuse. Le sentiment de sa beauté se révélait à elle, mais mélangé d'une sorte de honte et de crainte. Libine lui avait défloré l'amour. Près de Georges seulement, elle retrouvait sa sécurité innocente. Le cabriolet courait toujours sur la route unie entre les champs d'orangers et les amandiers grêles, dans les nuages de poussière, scintillantes de soleil, que soulevaient les chevaux. Les mail coach, les huit ressorts, les vieilles calèches armoriées, dépassaient de leur trot rapide les équipages modestes où des familles entières s'empilaient avec peine. Enfin, le champ des courses fut atteint. Il s'étendait, baigné de lumière, en face des îles blanches, contre les collines boisées. La piste était marquée dans une clairière entourée d'arbres et de prairies vertes. Des baraques de bois, servant d'écurie, fermaient l'espace du côté des tribunes. De l'autre, les attelages s'alignaient à l'ombre des pins et des chênes. Le kiosque réservé au jury, couvert de grandes affiches roses, s'élevait dans le fond de la pelouse moelleuse. Il y avait un grand mouvement parmi cette foule bigarrée,
qu'une occasion de fête champêtre et mondaine venait de réunir. Dans l'enceinte du pesage, des couples circulaient. D'autres, moins curieux de sport, écoutaient sous les bouquets d'arbres le gazouillement des oiseaux. Toutes les langues d'Europe se faisaient entendre. L'élégance masculine et sobre des Anglaises côtoyait le luxe plus somptueux des Hongroises et des Russes. Les membres du jury, sanglés dans des costumes clairs, fleurs à la boutonnière et chapeaux gris haut de forme, traversaient la piste d'un air affairé et s'approchaient des équipages pour causer avec les femmes. Les amateurs plus sérieux restaient dans les baraques, groupés autour du comte de Bellerive, le premier sportsman du midi. Un vrai type de jockey, ce gentilhomme. Cheveux plats, face longue et maigre, pipe à la bouche. La préoccupation chevaline incessante avait laissé sa marque. Pendant ce temps, Geneviève, perdue dans la foule qui s'agitait derrière les attelages, essayait de découvrir le profil de Georges parmi les figures barbues qui se croisaient devant elle. Quelques hommes, attirés par ce beau visage curieux, lui jetaient en passant un sourire familier. Un drague, qui arrivait en retard et se frayait un passage parmi les piétons, à grands cris de « Gare ! Hola !» la détourna de sa recherche. Elle leva les yeux et vit une chevelure rouge qu'accrochait un rayon de soleil. Madame de Crussol, entourée d'une escorte de jeunes gens, trônait sur la banquette la plus élevée. Madame de Santenac et une autre femme, moins jolie, lui servaient de repoussoir. Dans la lumière crue du jour, les nuances claires des robes de printemps avaient des chatoiements radieux. Geneviève regardait avec intensité. Tout à coup, son cœur remua de joie. Elle venait d'apercevoir la silhouette de Georges, se détachant sur le ciel scintillant. Elle aurait voulu lui crier « C'est moi qui suis là !» Mais il causait avec la comtesse Lise. Il ne donnait pas un regard à la masse vulgaire qui piétinait la pelouse. Un instant, il jeta les yeux autour de lui, puis dédaigneusement les détourna, sans qu'aucune expression de surprise ou de plaisir animât son visage. Et elle avait cru qu'il serait si heureux de sa présence inattendue, qu'il saurait la deviner. Ne la voyait-il donc pas parmi ce peuple qui entourait la haute voiture? Pour la première fois, la jeune fille pouvait mesurer nettement la distance qui les séparait. Une douleur aiguë la transperça. Elle n'eut plus qu'une volonté, disparaître. Autant elle avait désiré être aperçue, autant subitement elle le craignait. Elle posa sa main sur le bras du cousin Ernest. « Changeons de place, » dit-elle, « nous verrons mieux de l'autre côté. » Et rapidement elle l'entraîna. Engourdie par la souffrance, elle ne s'apercevait pas de la pression amoureuse qu'il imprimait à ses doigts. Elle n'entendait pas ses paroles. Alors, pour se faire écouter, il se pencha à son oreille. « Hé, belle cousine, comme vous êtes distraite! Je parie que ce sont les robes qui vous occupent. Eh bien, ai-je deviné? Vous en aurez de pareils l'an prochain, des plumes, des rubans, tout ce que vous désirerez. » Geneviève avait tressailli à cette voix si proche, mais le sens des mots lui échappait encore. « Que dites-vous ? » demanda-t-elle. « Ah, petite hypocrite ! » s'écria-t-il avec son rire gras d'homme jovial. « Elle fait semblant de ne pas comprendre et devine parfaitement. » Puis, sans transition, il ajouta « Je n'ai jamais rien su refuser aux femmes, et si je me remarie, Madame Randos n'aura pas à se plaindre. » Il accompagna cette assertion d'un regard significatif, rempli de promesses. Cette fois, Geneviève avait compris. Elle voulut dégager son bras. Une angoisse la saisissait. Était-ce pour entendre ces galanteries maladroites qu'elle avait si ardemment désiré cette fête, dont elle attendait des douceurs infinies? Le désappointement était cruel. « Laissez-moi, je préfère marcher seule, » dit-elle brièvement. mais Ernest Randos ne lui rendit pas sa liberté.
« Voyons, voyons »
répondit-il d'un ton de bonne humeur joviale. « Ne vous effarouchez pas et redonnez-moi votre main. On ne traite pas ainsi un parent bien intentionné. » Elle allait répliquer par un refus précis lorsqu'une fusée de rire traversa les airs. Il sembla à la jeune fille qu'elle reconnaissait l'accent de ses échos moqueurs. Énervée de fatigue, de chaleur, de tristesse, elle s'imagina que cette hilarité la visait, que les yeux curieux de la comtesse Lise venaient de l'apercevoir, en butte aux attentions de son cavalier. Sans doute, cette railleuse personne désignait au sarcasme de ses hôtes les airs avantageux de cet importun et vulgaire soupirant. Au lieu de se retourner et de constater son erreur, en mesurant la distance qui la séparait de la voiture de Madame de Crussol, Geneviève se précipita de l'avant, oubliant, dans sa crainte poignante du ridicule, de détruire les espérances de son trop inflammable cousin. De ce pas fiévreux, elle arriva à l'autre extrémité de la piste, sous un bouquet d'arbres, près des gradins, où ses compagnons l'installèrent au milieu des commerçants de la ville. Ernest Randos, se trouvant à l'aise dans son centre, se mit à causer bruyamment, jusqu'au moment où les fanfares de chasse dominèrent sa voix forte aux sonorités énervantes. Le steeple allait se courir. La cloche sonna pour la seconde fois, les chevaux entrèrent dans la clairière. Le silence se fit. Tous les regards se concentrèrent sur les vestes de couleur vive qu'emportait un galop vertigineux. Seule Geneviève ne prenait aucun intérêt au spectacle. Ces piétinements, ce tapage, ce ruissellement de soleil exaspéraient ses sensations douloureuses. Elle regardait au-delà des arbres, vers les horizons bleus de la mer, essayant de ressaisir ses impressions douces, de retrouver, en s'isolant de la foule, quelque chose qu'elle y avait perdu. Entre chaque course, les vociférations des parieurs recommençaient, des discussions s'échangeaient dans l'argot du métier. On voyait les sportsmen contrôler leurs carnets. Des bouts de papier entraient en circulation. Autour des voitures, l'animation était très vive. « Fedora a gagné d'une longueur. Vous avez vu le cheval de Bellerive? Il a buté deux fois. » Sur le drag de Madame de Santenac, on finissait de luncher. La comtesse Lise, très excitée, était rappelée à la modération par la parole sage d'Albert de Crussol, toujours admirable dans sa tenue de mari correcte. Monsieur de Briard discutait avec un officier des gardes de Sa Majesté britannique les mérites respectifs des diverses races chevalines. Pour la vitesse, il n'y a que l'étalon anglais pur sang. Certes, mais lorsqu'il s'agit de résistance, le croisement avec le sang arabe vaut mieux. C'est ainsi qu'on devrait monter toute la cavalerie. » En sa qualité de capitaine de dragon, Georges se laissait absorber par cette réunion sportique et oubliait momentanément la gravité de la partie où son cœur était engagé. Il perdait de vue Libine, leur rapport tendu et l'impression irritante que lui causait toujours la présence du Russe. Aucune querelle n'avait eu lieu entre les deux hommes, mais une malveillance sourde se révélait dans les rares paroles que les nécessités sociales les forçaient d'échanger. Georges ne voyait pas encore assez clair dans sa conscience pour infliger des châtiments et rechercher les explications sincères. Cependant, il ne pardonnait pas l'injure faite à la jeune fille. Si imprévu que fût son amour, il était déjà généreux et protecteur. Si incertaines que fussent ses intentions, rien de lâche ne s'y mélangeait. Tout à coup, Madame de Santenac eut un frisson. Le soleil ne réchauffait plus le coin de verdure où le drague était arrêté. Sa poitrine délicate la forçait à mille précautions. Elle prit le bras de son frère pour chercher un refuge dans les baraques et enjoignit à Libine de la suivre. « Venez, mon cher, il faut que vous me montriez la princesse Navadiov. Je ne puis l'apercevoir d'ici. elle est cachée par le mêle de Bellerive. » Le trio s'installa au premier rang d'une tribune, délaissée à cause de son exposition trop chaude. Sous la toile, brûlée de rayons incandescents, on respirait d'une atmosphère étouffante qui enchanta Marguerite. Avec une insolence de grande dame mal élevée, elle commença à lorgner, à droite, à gauche, sous le nez des gens, au-dessus et au-dessous d'elle. Elle se faisait nommer tout le monde, puis regardait de nouveau. Dans une de ses tournées investigatrices, elle aperçut Geneviève. « Tiens, la petite Maoule !» s'écria-t-elle. « La voyez-vous ? En bas, à droite, au tournant de la barrière, entre une commère rougeaude et un gros blond enluminé qui lui parle à l'oreille. » Libine se pencha avec un empressement curieux. Georges ne bougea pas. Il était devenu très rouge. Lui aussi venait d'apercevoir Geneviève. Madame de Santenac continua. « Sans doute c'est un fiancé, car il la contemple avec des airs de possesseur ravi. L'hypocrite, elle nous a caché ce prétendant. Cependant, on ne dirait pas une mauvaise affaire. L'avantageuse carrure de ce monsieur semble indiquer la prospérité. Mais il me semble à moi, insinua Libine de sa voix lente, que mademoiselle Geneviève est trop jolie pour ce lourdeau, qui a des poses de commis voyageur en bonne fortune. Ce serait un holocauste. Et que voulez-vous qu'elle fasse de mieux ? Répondit sèchement Marguerite. C'est déjà une chance qu'elle trouve quelqu'un qui l'épouse. Pas un liard de fortune, un frère infirme, des parents comme cela. Car la vieille dame la traite avec une expansion qui indique des rapports de famille. Franchement, personne de convenable ne pourrait songer à elle. Et si l'on en devenait amoureux ? Demanda Serge, jetant à Georges un regard de côté. Vous ne songez pas à cette éventualité. Elle est pourtant de celle qui se présente. Parlez-vous d'un homme du monde ? Voilà vraiment un sort enviable. Séduction ? Abandon ? La pauvre créature meurt à l'hôpital ou se jette dans la galanterie. Je vous reconnais bien, là. Vous trouvez la honte préférable à l'honnêteté d'une petite vie bourgeoise ? Georges se taisait toujours. Cette discussion le blessait, le froissait dans les fibres les plus intimes de son être. Chacun des mots de madame de Santenac semblait mesurer entre lui et Geneviève une distance infranchissable. C'était la première fois qu'il voyait la jeune fille dans son milieu natif. La vulgarité de son entourage la déflorait, jetait sur elle une ombre flétrissante. Il se sentait violemment ressaisi par les préoccupations qui le dévoraient depuis l'entrevue du jardin. Mais ce n'était plus dans le vague de son cœur. Aujourd'hui, les réalités se précisaient durement. Les paroles impitoyables de sa sœur le forçaient à interroger sa conscience, à débattre dans ce sanctuaire des questions que jusqu'ici il n'avait osé aborder. Étranglé par l'émotion, il faisait semblant de ne pas entendre et fixait obstinément ses yeux sur les affiches roses de la tribune du jury. Mais toujours ses regards revenaient vers la petite robe grise qui étalait ses plis maigres sur les gradins populaires, entre les robustes épaules du cousin Ernest et les rubans éclatants de la tante de Toulouse. Pâle de chagrin, les yeux meurtris de bleu, les mains croisées sur les genoux dans une attitude d'accablement et de lassitude profonde, Geneviève semblait une condamnée qui a perdu jusqu'à la force de se défendre. Devinait-elle qu'en ce moment son sort se jouait, que la conscience d'un homme tenait la balance entre des préjugés anciens et un amour naissant ? Madame de Santenac et Serge, après avoir généralisé la thèse de la séduction, revinrent à leur point de départ. Quant à la petite Maoule, poursuivit Marguerite avec ce ton incisif dont elle avait le secret, pour peu qu'elle tarde encore à épouser ce monsieur, si tant est qu'il soit un prétendant, il lui arrivera malheur. Ces belles filles déclassées sont immanquablement la proie de libertins comme vous. Mais j'y songe, À propos, ne m'a-t-on pas dit ? Ah oui, je me souviens. Georges est venu un jour me prévenir, d'un air solennel, que vous aviez à son égard de coupables intentions. Monsieur de Briard se fait le champion des vertus en détresse. C'est d'un exemple rare, s'écria Libine, soulignant de la voix le sarcasme de sa phrase. Mis en scène de cette façon provocante, Georges devait parler. Il le fit sèchement. Mais oui, et j'en tire gloire, car ces sortes d'entreprises m'ont toujours paru friser la malhonnêteté.
Comme si l'on empêchait quelque chose en intervenant, répondit Serge, haussant les épaules. On évince le premier, mais la voie est tracée, et fatalement quelqu'un en profitera. C'est la vie.
Cet aimable cynisme égaya Madame de Santenac et exaspéra Georges. Il ne pouvait supporter d'entendre discuter ainsi, brutalement, la honte éventuelle de Geneviève. Il répliqua avec une froideur hautaine « Il y a encore des gens qui ont des préjugés. »«
C'est-à-dire qu'il faudrait ne pas en avoir, et n'offrir l'amour à la vertu qu'accompagné d'un contrat de mariage. Par hasard, serait-ce là vos principes ?»«
Vous êtes inouïe, Libine, » s'écria Madame de Santenac. « Comme si Georges pouvait donner dans les ridicules égalitaires. Personne plus que lui ne blâme les unions disproportionnées. Tenez, l'autre jour encore, à propos de la mésalliance du duc de Saveuse, il était d'une sévérité. Vous vous en souvenez, cher ?» Mais Georges n'écoutait plus. Il regardait les lignes d'un jeune corps ployé. Geneviève avait détourné la tête, il ne voyait d'elle qu'un profil perdu. Laisserait-il tant de beauté, de jeunesse et d'innocence exposée aux propos d'un libertin, au dédain d'une femme orgueilleuse? N'aurait-il pas un mot énergique pour défendre celle qui, spontanément, lui avait donné son amour? Une impulsion généreuse emporta ses préjugés, ranima son cœur hésitant. « Voyons, capitaine, vos opinions. Ne nous faites pas attendre, » demanda Serge, affectant un ton de camaraderie amicale. Que doit-on faire en ces conjonctures délicates? En ce moment, une fanfare de chasse déchira l'air. La dernière course allait commencer. Au bruit, Geneviève releva la tête et pour la première fois regarda au-dessus d'elle, obliquant à gauche. Ses yeux rencontrèrent ceux de Monsieur de Briard. Une expression, douloureusement passionnée, transfigura son visage. L'âme de Georges vibra de pitié et de tendresse. « La conduite de l'honnête homme est toute tracée, » répondit-il gravement. « Il a le droit de garder son secret. Mais s'il a révélé son amour, il doit l'accompagner du don de sa vie.
« C'est-à-dire qu'il épouse, en langue vulgaire ?» s'écria Libine en ricanant.
« Oui, il épouse. » répéta Georges avec solennité, tandis que le dernier coup de cloche annonçait le départ des chevaux. Chapitre 7. Cette affirmation, arrachée à sa conscience d'honnête homme par les propos cyniques de Serge et la beauté mélancolique de Geneviève, se heurtait chez le capitaine de Briard à de vives oppositions intérieures. Sa raison, assez froide, et ses préjugés respectables, le sauvaient en général des imprudences, auxquelles l'exposait volontiers la spontanéité de son cœur. Mais, paraît-il, son heure était arrivée. Les regards à la fois innocents et profonds de la jeune fille l'avaient dès l'abord touché et attendri. Puis était venue l'indignation, la jalousie, la rencontre du jardin, et maintenant la déclaration de principe qu'on lui avait extorquée. Certes, il aimait Geneviève. Il ne songeait ni à la tromper, ni à la perdre. Mais il ne s'était pas préparé à une décision si prompte. Il aurait préféré demeurer dans l'incertitude, réfléchir encore. Cependant, il n'avait de compte à rendre à personne. Sans père ni mère, indépendant de fortune, sa sœur Marguerite représentait toute sa parenté proche. Il avait les goûts simples et la passion de son métier de soldat. Donc, mieux que la plupart des hommes de son âge, il pouvait faire un mariage d'amour. Tout de même, cependant, cette mésalliance lui coûtait. La vulgarité de l'entourage le froissait singulièrement. Ah, par exemple, il était bien décidé, si la chose marchait, à ce que tous les rapports de famille se rompissent. Le soir, après les courses, tandis qu'on discutait autour de lui, la fête que Madame de Crussol voulait forcer Madame de Santenac à donner, il voyait passer dans un entrecroisement perpétuel les douceurs et les amertumes de son avenir. De temps à autre, Lizzie l'interpellait. « Georges, dites à Marguerite qu'elle doit se presser avant que les gens ne partent. »« Georges, organisons une féerie. »« Non, des tableaux vivants, c'est plus facile. » « Georges, que diriez-vous de la loggia transformée en théâtre? Idéal, n'est-ce pas ?» Il répondait distraitement « Oui, tout ce que vous voudrez. » Et continuait son rêve. Madame de Crussol, très excitée, ne s'apercevait pas de cette inattention. Elle arrangeait les tableaux qui devaient précéder le bal, nommait Libine régisseur en chef. C'est à peine si elle consultait Madame de Santenac. Celle-ci, très indolente, la laissait faire. « J'ai déjà la série. Il ne manque que la scène classique. Qui pourrions-nous prendre ?»« Ah, j'y pense, Geneviève. Elle a un type de déesse grecque qu'un sang arabe aurait réchauffé. Il faut l'enrôler. Je vais lui écrire. » Le lendemain, en effet, un petit mot impérieux vint convier la jeune fille. Celle-ci, endolorie de son désappointement de la veille, arriva hésitante, un peu triste. Madame de Crussol la mit immédiatement au courant des projets de fête et lui expliqua ses volontés. « Vous devez promettre de poser. Le sujet n'est pas choisi encore, mais nous avons absolument besoin de vous. C'est convenu, n'est-ce pas, petite? Vous serez superbe en lainage blanc, les bras relevés, soutenant une amphore. » Geneviève rougit beaucoup. La tentation était grande, mais elle hésitait, pensant à Maximin qu'il faudrait quitter de nouveau. Puis son père consentirait-il? Comment se procurer d'ailleurs le costume nécessaire? Madame de Crussol devina son embarras. « Nous ne ferons pas de frais, j'ai établi un règlement. Chacun devra se servir de ce qu'il possède. On a toujours chez soi de vieilles étoffes inutiles. » C'était un mensonge charitable qui manqua son effet. Geneviève ne fut pas rassurée. Elle songea à ses armoires vides, qui ne renfermaient que le strict nécessaire. Son visage candide trahit sa pensée. « D'ailleurs, reprit la comtesse Lise, le vôtre ne représentera qu'un morceau de laine drapée. J'ai ce qu'il vous faut. On se prête dans ces sortes d'occasions. Ainsi, moi, je compte emprunter les émeraudes de Madame de Santenac. » Pour satisfaire ses désirs ou ses caprices, Madame de Crussol savait être délicate. Mais depuis les impressions douloureuses des courses, les susceptibilités de Geneviève s'étaient éveillées. Un sentiment nouveau de dignité la dominait. L'avant-veille, elle aurait accepté avec un plaisir naïf. Aujourd'hui, elle remercia et réserva son acquiescement. « Je ne puis rien promettre avant d'avoir consulté mon père. S'il refuse, c'est moi qui viendrai, d'assaut, enlever son consentement, » répliqua Lizzie. Elle tenait beaucoup au tableau classique, dont les lignes et les couleurs sobres étaient destinées à servir de repoussoir à la scène suivante, où elle devait figurer, dans le galant costume d'une merveilleuse du directoire. Bientôt survinrent Madame de Santenac et Monsieur de Briard, Libine et quelques autres habitués. Les femmes étaient très montées. Une fièvre de mondanité les avait saisies, réaction naturelle d'un hiver trop paisible. On combinait des effets, on drapait des étoffes, c'était un va-et-vient dans l'appartement. Au milieu de cette animation de paroles et de gestes, on oubliait la jeune fille. Georges lui-même ne s'en occupait pas. Il s'était décidé à temporiser encore, à user de prudence. Pour ne pas être entraîné, il détournait les yeux. Elle, jusque-là si confiante, s'apercevait maintenant qu'on la négligeait, comprenait qu'elle n'était pas une des leurs. La conscience des choses lui était venue par les sensations amères. Certes, elle n'accepterait pas de participer à cette fête. Elle aurait le triste courage de refuser. Elle pleurait doucement contre les volets clos de la chambre de Madame de Crussol, cachée par les draperies des rideaux, tandis qu'autour d'elle, on ouvrait les tiroirs, sortait les bijoux des écrins, déployait les dentelles. C'était un étalage, un bruissement. Puis, sans qu'elle s'en aperçût, tous quittèrent la pièce. Elle resta seule. Dans le salon, la comtesse Lise dressait la liste des accessoires, l'ordre des tableaux. Tout à coup, elle s'écria « J'ai trouvé ce qu'il faut à Geneviève, la dernière aquarelle d'Alma Tadema. Vous savez, la jeune fille en costume pompéien, debout derrière le mur où l'amoureux est étendu. Ce sera ravissant et nouveau. Mais qui sera le jeune homme? Je ne vois que le capitaine, car Libin est trop gros. Georges, mon ami, cela ne vous fera rien, n'est-ce pas, de poser avec cette petite ?» Serge, qui avait entendu, eut un sourire d'ironie discrète. « Monsieur de Briard est trop complaisant pour vous refuser ce service. »« Personne ne vous prie de répondre pour les autres, » répliqua Madame de Crussol. « C'est trop de zèle. Georges, vous avez une langue, n'est-ce pas? Consentez-vous à ce rôle d'amoureux ?»« Vous savez que je suis entièrement à vos ordres, » dit le capitaine avec une politesse cérémonieuse. « Mademoiselle Mahou l'a-t-elle promis ?» Elle fait des façons, elle parle de son père, mais il faudra qu'il permette. Je veux qu'elle pose. » Ce « je veux » froissa le jeune homme. Il regarda autour de lui pour voir si Geneviève avait pu entendre le mot impérieux et blessant. Il s'aperçut alors qu'elle ne les avait pas suivis. Où se cachait-elle? Serait-elle partie, se croyant délaissée? Un besoin soudain de lui dire sa tendresse le saisissait, lui faisait oublier la réserve qu'il voulait s'imposer. Après quelques circuits habiles, il quitta le salon et partit à sa recherche. Serge, auquel la manœuvre n'avait pas échappé, se pencha vers Madame de Crussol. « On voit bien quelle sincère et profonde amitié vous lie à Monsieur de Briard. Vous prévenez ses désirs avec une délicatesse exquise. » Vous lui demandez comme un service ce qu'il solliciterait volontiers comme une grâce. » Madame de Crussol secoua les épaules impatiemment. « Vous feriez bien, mon cher, de renoncer à ce langage énigmatique. Vraiment, je ne saisis pas. » « Je vous croyais plus perspicace, » répliqua Libine en la regardant fixement. « Si vous étiez naïve, au fond, ce serait drôle. Voyons, soyez franche. Il est impossible que vous n'ayez rien vu. » Vu quoi? Parlez vite et clairement. Vous le voulez? Je serai brutal. Monsieur de Briard est amoureux fou de Geneviève. Ha! Ça, vous êtes insensé, s'écria Lizzie avec une incrédulité impertinente. Ah, mon pauvre ami, vous ressemblez à ces généraux en retraite qui croient toujours entendre le clairon des batailles. « Je connais Georges mieux que vous. » Elle eut un sourire merveilleux de confiance en elle-même, où se jouaient mille ressouvenirs de passion victorieuse. L'épisode de Nice était présent à sa mémoire et rassurait sa vanité. Elle avait d'ailleurs une de ces personnalités envahissantes qui ne voit pas au-delà d'elle-même. Elle toisa Libine d'un regard de pitié. « Je vous conseille de soigner cela, et sérieusement. Ces sortes de visions sont un symptôme dangereux. Il y a des maladies cérébrales qui commencent ainsi. » Serge s'inclina avec une soumission narquoise et bientôt après quitta le salon. Cependant, dans la chambre de Madame de Crussol, ouverte ce jour-là aux visiteurs, Georges venait de découvrir Geneviève, dissimulée dans l'embrasure de la croisée. Il ne pouvait voir son visage tourné vers le jardin, à l'ombre des volets fermés. Mais les épaules voûtées, dans un abandon général du corps, dénotaient le découragement ou la douleur. Elle ne l'avait pas entendu venir. Sa voix la secoua d'un tressaillement. « On m'assure que vous ne voulez pas poser avec moi ?» dit-il doucement. « Est-ce vrai ?»«
Avec vous ?»
balbutia-t-elle surprise.
« Oui, avec moi. Une scène champêtre où je dois jouer le rôle d'amoureux. Est-ce pour cela, peut-être, que vous refusez ?»«
On ne m'avait pas dit... »
« Alors, si vous l'aviez su, vous auriez accepté. Ai-je bien compris ?»«
Voyons, Geneviève, expliquez-vous clairement. »
Elle avait caché sa figure dans ses mains et ne répondait pas. Lui continuait à la taquiner, insistant tendrement pour qu'elle avouât les motifs de son refus.
« Craignez-vous que nous ne jouions la chose trop au naturel ?»«
C'est ma peur aussi. » Quand je vous regarde, je me sens incapable de conserver la mesure voulue par les convenances. »
Il se penchait vers elle. Sa tête était presque au niveau de l'épaule de la jeune fille. Elle sentait sur son cou le souffle pressé de Georges. À travers les barreaux des persiennes, le soleil rayait leurs vêtements de bandes lumineuses, brûlait leurs mains et leurs fronts. Le mélange violent des senteurs du jardin et des sachets de toilette les pénétrait, les énervait. Un trouble, rempli de langueur, annulait leur volonté. Geneviève n'avait plus la force d'arrêter les larmes qui coulaient abondamment de ses yeux. Georges éprouvait un attendrissement passionné.
« Chérie, dit-il tout bas contre son oreille, promettez-moi de poser dans ce tableau. »
Elle fit un geste hésitant. Malgré son émoi, les impressions cruelles la dominaient toujours. Mais il persista dans sa demande.
« Si vous refusez, je croirai que je suis seule à aimer. Geneviève, je vous en prie, je vous en supplie, dites oui. Vous ne voudriez pas m'affliger. C'est un si petit mot. Geneviève, je vous implore. »
Ses paroles n'étaient plus qu'un murmure caressant. Ses lèvres s'égaraient dans les cheveux de la jeune fille.
« Cher bien-aimé, dites oui !»
Incapable de résister à cette persuasion tendre, elle balbutia l'acquiescement demandé. Mais dans le rythme tremblé de sa voix, Georges devina des larmes.
« Vous pleurez ? » s'écria-t-il. « Mon Dieu, qu'avez-vous ? »
Son agitation était très vive. Il voulait qu'elle lui montrât son visage, savoir ce qui l'affligeait.
« Et moi qui plaisantais, qui ne me doutais pas, quelqu'un vous a-t-il offensé ? Répondez, afin que je punisse l'insolent. Serait-ce Serge de nouveau ?»
Sa véhémence effraya Geneviève. Maintenant, des sanglots la secouaient, réaction des angoisses de la veille. Elle continuait à détourner la tête, honteuse de ce larmoiement qu'elle ne savait pas réprimer.
« Laissez-moi seule, » bégaya-t-elle. « Dans un instant, je serai plus calme. »
Mais lui, très ému, refusait de s'éloigner. Il avait jeté un de ses bras autour de la jeune fille et de l'autre, essayait d'attirer son visage près du sien. Il réussit à s'emparer des mains qui le cachaient. Il vit alors ses yeux noyés de larmes, sa bouche d'enfant navré. Son cœur d'homme fut remué de pitié.
« Je vous en conjure, ne pleurez pas !» s'écria-t-il. « Je ne puis vous voir souffrir. Qu'avez-vous ? Je veux le savoir. J'en ai le droit. »
Ce ton dominateur sembla inexprimablement doux aux oreilles de Geneviève. Elle s'abandonna à cette étreinte protectrice. Il répéta sa demande.
« Dites-moi, qui vous a offensé ?»«
Personne, je vous assure, personne. Ce n'est pas cela. »
« Qu'est-ce donc ?
C'est à cause d'hier. » Elle était trop candide pour dissimuler longtemps.
« Comment, à cause d'hier ?
Oui, j'étais là-bas, perdue dans la foule. Vous ne m'avez pas deviné. Alors j'ai cru que vous ne vouliez pas me voir, que vous ne m'aimiez plus, que tout était fini. Oh, la journée angoissante !» Sa voix avait un accent pitoyable. Georges eut un étrange et triste sourire. Pouvait-il lui avouer que cette journée qu'elle maudissait avait décidé l'avenir et fixé ses irrésolutions? Un instant, il fut tenté de tout lui dire, puis la réflexion l'arrêta. Il se contenta de répondre sérieusement. « Enfant, ne doutez pas de moi. Je vous aime, et c'est pour toujours. Volontairement, je ne vous ferai jamais souffrir. N'est-ce pas, vous me croyez ?» Les cils de Geneviève effleurèrent son visage comme un battement d'ailes éperdu. Alors il eut un élan de passion, où ses dernières résistances disparurent, où ses derniers préjugés s'effacèrent. « Vous serez à moi » murmura-t-il dans un balbutiement tendre. « À moi pour la vie, ma femme !» Un cri bas, rempli d'une joie si intense qu'elle ressemblait à de l'angoisse, répondit à ces paroles. Les lèvres de Georges s'appuyèrent sur celles de la jeune fille. Leurs âmes et leurs haleines se confondirent. Absorbés dans cette extase d'amour, ils n'aperçurent pas derrière eux, dans l'encadrement de la portière, le sourire rancuneux de Serge. Ils n'entendirent pas sa voix lente murmurer « Si ce n'est pas là le clairon des batailles !» Libine venait d'assister invisiblement à l'entrevue. Les mots lui avaient échappé, mais l'éloquence des attitudes lui suffisait. Il s'éloigna sans bruit et rentra dans le salon. Il savourait déjà un plaisir de vengeance, et l'espérance de pécher en eau trouble le consolait de ses défaites. Il allait d'ailleurs accomplir une œuvre philanthropique, de haute convenance, sauver un homme du monde d'une mésalliance ridicule. En fait de préjugés, le Russe ne connaissait que cela. Il se rapprocha de la comtesse Lise, et l'isolant du groupe qui l'entourait, « Il est acquis, dit-il, que j'ai le cerveau détraqué, mais si vous alliez jeter à la porte de votre chambre un regard discret, vous pourriez aisément vous convaincre qu'il y a des fous lucides. » Elle haussa les épaules. « C'est d'ailleurs un devoir à accomplir envers un ami d'enfance. Venez, madame. » Quelque chose dans l'accent de Serge sollicita la curiosité malsaine de Lizzie. L'avertit qu'il ne raillait pas. Elle se laissa entraîner, disant faiblement « C'est bien, petites gens, ce que vous me faites faire là !» La portière baissée de la chambre de madame de Crussol permettait d'observer, sans être découvert, ce qui se passait dans l'intérieur de la pièce. Téméraire par honnêteté d'amour, Georges et Geneviève négligeaient les prudences habiles que suggère le sentiment du mal. Quand la comtesse souleva la draperie, le capitaine de Briard avait un bras autour de la taille de la jeune fille et lui baisait doucement les cheveux. Elle s'appuyait à son épaule, les paupières baissées, comme sous le poids d'un excès de bonheur. Une stupeur intense fut le premier sentiment dont madame de Crussol eut conscience. Il se changea vite en colère. Sa vanité saignait de toutes parts. Dupe ! Elle avait été dupe ! Elle fit un mouvement pour avancer et confondre les coupables, puis immédiatement recula. Ce n'était pas là une revanche digne de sa force. Derrière elle, Libine souriait. Elle laissa retomber la portière et se retourna violemment. Il vit que ses yeux verts étaient devenus noirs. « Ah ! » s'écria-t-elle d'une voix qui sifflait. « Votre flair de vieux chasseur ne vous a pas trompé. » Il souleva le bas de sa manche flottante et le baisa avec une exagération de respect. « Dites plutôt, mon flair d'esclave soumis !» Lizzie le repoussa d'un geste impatient. Et, désignant avec mépris les rideaux qui cachaient les deux coupables, dit d'un ton de grande dame offensée « Je ne pouvais croire que dans ma maison on se permît pareille licence. J'y mettrai ordre. » « Oui, sans doute, » répliqua Libine. « Mais s'il l'aime, que ferez-vous » Madame de Crussol le dévisagea d'un regard de colère, puis répondit avec une arrogance suprême. « Donnez-vous le nom d'amour à l'abaissement d'un homme ?» Mais tandis qu'elle parlait, une sensation aiguë lui étreignait le cœur. Elle revoyait l'attitude de Georges, ses caresses douces. Jamais il ne l'avait contemplée avec cette expression attendrie. Elle eut un soubresaut de colère et de terreur. Ses lèvres blanchirent. Cette face pâle, sous ses cheveux roux, devint menaçante. Elle appuya ses mains sur sa poitrine pour en comprimer les battements, pour étouffer la voix qui criait en elle, qui la forçait à se demander « Serais-je assez folle pour y tenir encore ?» Troisième partie, chapitre 1. Dans le cabinet de toilette de Madame de Santenac, les acteurs des divers tableaux venaient mettre leur rouge, poudrer leur tête et boucler leurs perruques. C'était un va-et-vient, un entrechoquement dans l'espace étroit. On entendait des heurts de porcelaine, le bruit sonore des aiguières d'argent battant sur le marbre des tables. Les flacons débouchés répandaient des senteurs fortes qui, se mélangeant à l'odeur de cierge des bougies en fusion, faisait à la chambre une atmosphère étouffée d'église. Il y avait un coiffeur de Nice, venu exprès pour la circonstance. Il offrait ses services avec un sourire de Figaro bienveillant. Sur la mousseline brodée des toilettes, les fers à friser chauffaient, la flamme bleue de l'esprit de vin se reflétait dans les miroirs à facettes et jetait sur les visages enfarinés de poudre blanche des lueurs fantastiques. On s'envoyait des appels pressés, les demandes et les réponses se croisaient vivement. « Le crayon pour les yeux, où peut-il être ?»« Le voici. Avez-vous le blanc de ces ruses ?»« Hé, capitaine, si vous cédiez votre place, vous abusez du vermillon. »« Messieurs, messieurs !» criait de la porte le régisseur en chef. « Dépêchez-vous, ne perdez pas de temps, les voitures commencent à arriver. » Dans la pièce à côté, les femmes s'habillaient. C'étaient des froufrous d'étoffes, des bruissements, des paroles murmurées, des rires qu'on étouffait, puis de petits cris aigus, des refrains de chansons. On aurait dit une volière en ébat. Les jupons de dentelle jonchaient le tapis, les épaules nues sortaient des corsets de satin. Madame de Crussol enlevait ses vêtements avec une impudeur tranquille. Le maillot qu'elle portait pour son costume directoire lui donnait une assurance extraordinaire. Elle semblait croire qu'il l'enveloppait d'une chasteté inviolable, d'un voile de décence absolue. Des plaisanteries risquées circulaient parmi ces femmes que le plaisir de ce cabotinage improvisé jetait hors d'elles-mêmes. Le mauvais ton de leur discours les enchantait, éveillait en elles une émulation malsaine. Des sourires cavaliers retroussaient leurs lèvres, quelques-unes même ébauchèrent des gestes canailles, qui eurent un succès énorme. Geneviève, serrée jusqu'au cou dans son corsage noir, les joues chaudes encore des baisers d'adieu de Maximin, les contemplait avec des yeux effrayés. Elle ressemblait à une statue de la pudeur égarée dans une ronde de Bacchante. Lorsque son tour fut venu et qu'elle vit glisser sa robe, elle eut honte de montrer ainsi la nudité de sa poitrine au regard moqueur de ces femmes, à qui la modestie semblait étrangère. Son effarement n'échappa pas à la comtesse Lise. « Je ne vous croyais pas si timide, mademoiselle Maoul. Vous êtes de celles, paraît-il, que leur sexe effarouche et que l'autre rassure. » Ces paroles outrageantes et dures firent pâlir Geneviève jusqu'à la lividité. Ses lèvres s'ouvrirent pour protester, mais déjà Madame de Crussol disait « Mesdames, allons mettre notre rouge !» Toutes, sauf la jeune fille, se pressèrent vers la porte et firent bruyamment irruption dans le cabinet de toilette où les hommes se bichonnaient encore. Ce furent des exclamations, des étonnements. L'admiration s'exprimait sur un ton de familiarité inaccoutumé. Les femmes permettaient des examens, sollicitaient des services, qu'en d'autres heures elles auraient taxé d'insolents et d'équivoques. L'une, renversée en arrière, les yeux perdus, se laissait peindre les sourcils. L'autre tendait mollement les bras pour se faire attacher ses bracelets d'égyptienne, montant jusqu'à l'épaule. Libine, très affairée et important dans son rôle de régisseur en chef, passait en revue les costumes, rattachait un nœud, relevait une boucle. Ce métier lui rapportait quelques menus avantages, de ceux qu'il dédaignait autrefois, mais auxquels, en vieillissant, il commençait à devenir sensible. Au milieu de ses gaietés roucoulantes et de ses rires clairs, Madame de Crussol, adorablement jolie sous son grand chapeau empanaché, allumait les regards des hommes. Son fourreau directoire, en mousseline de l'Inde, était d'une exactitude irréprochable. Le tissu léger laissait voir la tache rose des genoux. Les moindres mouvements du corps s'accusaient librement. Ses épaules trop larges, diminuées par la petite manche bouffante, avaient une grâce plus abandonnée. Le buste s'épanouissait à l'aise dans le corsage court, coupé sous la poitrine par une ceinture de diamants. Debout, devant une table de toilette, les bras relevés, les joues frottées d'un vermillon tendre, elle ombrait ses yeux de coups de crayon délicats sous la direction de Georges de Briard. À chaque mouvement, elle lui effleurait le visage de son coude à fossette. Ce contact répété finissait par troubler le jeune homme. Cette blancheur de rousse tentait ses lèvres. « Maintenant, mettez-moi du carmin aux oreilles !» dit-elle tout à coup en se retournant. « Le chapeau fait ombre, je ne vois pas !» Il obéit. Sa main tremblait un peu en touchant la chair douce. Il était très beau dans son costume antique, les cheveux frisés, courts autour de la tête. Elle le regardait, les yeux à demi-clos, allumés d'une flamme inquiétante. Quand il eut terminé sa périlleuse besogne, elle murmura doucement « Merci, Georges !» Puis elle ajouta avec un rire étrange « Que demandez-vous pour vos services ?» Cette question embarrassa le jeune homme. Il eut envie de risquer quelque audace, mais il pensa à Geneviève et répondit cérémonieusement « L'honneur de valser avec vous !» Elle ébaucha un sourire nerveux d'acquiescement et s'éloigna, affectant soudain une dignité pudique. « Au fait, je ne sais pas si je danserai ce soir. Vous comprenez, dans ce costume ?» Des raisons péremptoires d'éclairage avaient nécessité un changement dans le programme de la soirée. À la vive contrariété de Madame de Crussol, un mariage sous le directoire devait précéder au lieu de suivre la scène pompéienne d'Alma Tadema. Ces deux tableaux étaient le principal attrait du spectacle. Dans le salon, on en parlait beaucoup. Il y avait une fièvre d'attente devant les portes du loggiato fermées. Enfin, les chaises furent disposées en rang, les femmes s'assirent, tassant leurs jupes, d'où montaient des odeurs douces d'iris et de verveine, les bâtons glissèrent dans les rainures. À travers une gaze transparente, sous un rayonnement de lumière électrique, on vit une pendule de Sèvres, surmontée d'un groupe en pâte tendre, grandeur naturelle. Une bouquetière, en retroussis à ramages, offrant des violettes à une marquise Louis XV qui devisait avec un garde du corps. La cour des pharaons défila ensuite, puis vint une ferme de la forêt noire. Après quoi, ce fut une scène de la fronde, la grande mademoiselle ordonnant de tirer le canon de la Bastille. Les entr'actes étaient longs, la chaleur excessive. Une température d'été entrait par les fenêtres ouvertes. Les femmes, lasses de leur immobilité, bâillaient derrière les éventails. On murmurait à voix basse. « Terne, et pas nouveau. J'ai sommeil. Et vous ?»« Ah, ma chère, j'étouffe. Ne pourrait-on pas aller dans le jardin ? J'ai envie de m'évanouir. Ce serait un prétexte. » « Attendez donc, il faut voir les costumes directoires, celui de Lizzie et d'un inconvenant. Ah, si j'étais monsieur de Crussol, comprend-on qu'un homme comme lui... Voilà les trois coups, ce doit être elle, son tableau est l'avant-dernier. » De nouveau, la porte glissa dans les rainures. La comtesse Lise, suivie d'un cortège brillant et serrée au bras d'un muscadin de l'époque, vint offrir au public, avec une effronterie cavalière, rehaussée d'une grâce voluptueuse, la vue de son corps parfait, palpitant sous la mousseline de sa jupe collante et fendue sur le côté. Il y eut dans la salle, à cette apparition, un bourdonnement confus, où mille sentiments divers se mélangeaient. Mais la vanité de Madame de Crussol l'empêcha de discerner les nuances. Elle ne vit qu'un triomphe, là où elle aurait dû sentir la honte du blâme. Les battants se refermèrent sur son sourire victorieux. Après cet éblouissement de chairs et de couleurs, Geneviève, chastement drapée dans sa tunique de laine blanche, obtint une ovation sincère, où vibrait un soulagement de décence rassurée. Sa beauté avait ce soir-là un éclat de tendresse extraordinaire. La tête penchée, les yeux rêveurs, elle semblait écouter une musique qui la ravissait. Georges, étendu sur un mur bas, son visage radieux d'amour relevé vers le sien, la contemplait avec une béatitude fervente. En mesurant l'effet qu'elle venait de produire, son cœur était doucement remué d'orgueil. Il se réconciliait avec sa folie et se sentait prêt à la proclamer. Hé hé, disait-on dans la salle, le capitaine a un talent de mimique extraordinaire. Le tableau était harmonieux, l'ordonnance parfaite. Le sourire de Geneviève avait une grâce tremblante. Quand les battants se refermèrent, il y eut un regret. On cria « Bis ! Bis !» Il fallut rouvrir les portes. Dans les coulisses, Madame de Crussol pâlissait de colère. À chaque applaudissement, ses rancunes s'aiguisaient. Le régisseur en chef se frottait les mains. « C'est un triomphe ! Un vrai triomphe » répétait-il de sa voix traînante. Devant Serge, Lizzie ne dissimulait plus. Elle eut le geste de quelqu'un qui part en guerre, décidé à ne pas supporter de défaite. À ce moment, minuit sonna. Un sourire de cruauté raffinée plissa ses lèvres. « Un triomphe sans lendemain » répliqua-t-elle de son accent bref des mauvais jours, en désignant de la main les aiguilles du cadran. Le bal avait commencé, d'abord avec langueur, puis l'atmosphère surchauffée tendit les cerveaux, communiqua à toute la salle un entrain nerveux. Les hommes avaient remis l'habit noir, mais les femmes conservaient le costume de leur rôle, mettant ainsi une note fantaisiste à cette réunion mondaine. Tous les jeunes gens se faisaient présenter à Geneviève. Elle avait excité une émotion sympathique. Chacun lui disait un mot aimable. Les femmes même semblaient l'adopter. Elle accueillit timidement, avec réserve, ses propos flatteurs. Dans ce mouvement joyeux, dans cette réalisation de ses rêves, une tristesse l'oppressait. On aurait dit que l'ombre mélancolique de sa demeure se projetait sur elle. En effet, sentiment inexplicable, jamais comme à ce moment de bonheur excessif, elle n'avait senti la force des liens qui l'attachaient à la maison paternelle. La réalité de sa vie n'était pas dans cette salle lumineuse, odorante. Elle était là-bas, dans la chambre étroite, près du lit de l'enfant malade. Elle ne pouvait chasser cette sensation qui étouffait les impressions heureuses, qu'il arrivait à une chaîne qu'elle ne parvenait pas à rompre. Habituée au silence, inaccoutumée aux veilles, elle éprouvait une lassitude extrême. Tous ces visages nouveaux l'étourdissaient. Elle chercha une figure connue sur laquelle se reposer et ne rencontra que celle de Libine. Il était près d'elle et la regardait beaucoup, intéressée par les rapides changements d'expression de sa bouche sérieuse. La tenue chaste de la jeune fille, contrastant avec le mauvais ton des autres femmes, avait réveillé, en son cœur, un vieux fond de respect oublié. Les appréciations enthousiastes des hommes lui allumaient le cerveau, aiguisaient ses désirs. Il se sentait ressaisi d'attendrissement et se repentait d'avoir averti Madame de Crussol. Vraiment, Sincèrement, il souffrait à la pensée des chagrins et des duretés qui attendaient Geneviève. Il eût voulu la mettre en garde. « J'aurais dû agir seul, » pensait-il. « Il y a tant de moyens de séparer les personnes, sans recourir aux procédés violents. J'ai la main douce. Pauvre petite, je ne voudrais pas qu'on fût rude pour elle. » Il s'approcha du canapé où elle était assise et, après quelques préambules, lui dit à brûle-pourpoint « Rappelez-vous que je suis votre amie. » Elle le regarda stupéfaite. « Vous ne comprenez pas, mais vous comprendrez plus tard. Soyez sur vos gardes en attendant. » Geneviève se troubla sous ce conseil qui semblait contenir une menace. « Quoi ? Qu'y a-t-il ? » demanda-t-elle d'une voix où tremblaient ses craintes. La froideur agressive de la comtesse lui revenait en mémoire. Mais Serge était trop cauteleux pour s'expliquer davantage. Il s'éloigna sans répondre, heureux de l'avoir averti, satisfait aussi de l'épine qu'il venait de planter dans son bonheur. Pendant ce temps, Georges et Lizzie dansaient enlacés. C'était une valse allemande au rythme langoureux et lent. On les regardait beaucoup. Elle se balançait avec mollesse, les yeux relevés sur ceux de son partenaire, faisant de la prunelle le siège de ses désirs. Lui demeurait impénétrable et correct. Enfin, ils s'arrêtèrent. La tête de madame de Crussol tournait. Elle s'appuya fortement au bras du jeune homme. « Allons dans la serre, » murmura-t-elle. « On y respire mieux. » Il la fit asseoir dans un angle isolé, sous les feuilles luisantes d'un bananier, planté en pleine terre, et se mit auprès d'elle. La comtesse renversa contre le tronc de l'arbuste. Sa face était rose de plaisir. Elle avait aux lèvres une moue exquise. « Qu'on est bien ici !» dit-elle. Mais voyant qu'il ne répondait pas, elle posa doucement sa main sur la sienne. « N'est-ce pas, Georges ?»« Oui, sans doute, il fait moins chaud. »« Ce n'est pas cela que je voulais dire, » reprit-elle d'une voix rêveuse. « C'est parce que nous sommes ensemble que je sens cette douceur m'envahir. » Que j'éprouve ce bien-être parfait. » Elle accentua la pression de sa main. « Et vous, cher, êtes-vous heureux près de moi ?»« Comment ne le serais-je pas ?» répondit-il, déconcerté et surpris de cette explosion inattendue, de cette note tendre, inexplicable chez elle. « Demandez plutôt aux envieux que je fais. » « Cessez ces galanteries banales !» dit Lizzie, soudainement sérieuse. « Entre nous, il y a plus et mieux. » « Oui, vous avez raison, notre bonne amitié, l'ancienne camaraderie qui durera toujours. » Il s'exprimait avec effusion. Madame de Crussol plissa son front borné de déesse, mais ses lèvres humides gardèrent leur sourire. Elle murmura tout bas, comme se parlant à elle-même, « Je croyais à autre chose. » Un lien plus étroit et plus fort. Me suis-je trompée ? Dites, mon ami, auriez-vous tout oublié déjà ? » Et lentement, se penchant vers lui, avec des mouvements d'une grâce provocante, elle l'examina d'un mince regard luisant qui évoquait tout leur passé d'amour. La tendresse chez cette femme railleuse avait une séduction redoutable. Georges se sentait enveloppé d'effluves enivrants, assailli de souvenirs dont la douceur l'énervait. Ses yeux, brûlants d'un réveil d'ancienne passion, se fixèrent, éperdus, sur le petit visage qui se trouvait à une proximité dangereuse du sien. Prompte à saisir ces signes de trouble, la comtesse crut sa revanche assurée et fut surprise elle-même de la rapidité de sa victoire. Mais l'émotion du jeune homme n'était que fugitive. Il s'éloigna de la bouche tentatrice et, prenant affectueusement la main de madame de Crussol, dit avec un effort de courage « Non, Lizzie, je n'oublie pas le bonheur que vous m'avez donné. Il me sera toujours précieux. Mais il appartient au passé. Vous-même l'avez voulu. »«
Moi, je l'ai voulu !» répondit-elle violemment. « Cela vous plaît à dire ?
Les circonstances nous ont séparés. Je les ai subies comme vous, souffrant plus que vous, espérant toujours. »
Alors pourquoi ? Demanda-t-il, ému de nouveau. « Pourquoi avoir refusé de m'écouter quand je vous suppliais de vous souvenir ?»
Elle eut un geste de dédain et couvrit sa poitrine de ses bras avec une soudaine et orgueilleuse pudeur. Ce mouvement l'éloigna de Georges, mit entre eux une distance.
« Vous voulez savoir pourquoi ? » s'écria-t-elle, vibrant tout entière de l'excitation qui l'enfiévrait.
« Ah, vous êtes bien tous les mêmes, sans perspicacité d'esprit ni intuition d'âme. Vous ne devinez pas le sens caché de nos refus. Vous n'écoutez pas ce que dit notre cœur. Nos scrupules vous échappent. Les assauts de notre conscience vous paraissent puérils. Vous stigmatisez du nom d'oubli la lutte d'une femme s'attachant désespérément au devoir. »
Elle parlait comme grisée, à mots pressés. Ce langage stupéfiait Georges. Jamais jusqu'ici elle n'avait déclamé sur la conscience et le devoir, ces grands fantômes auxquels elle ne croyait pas. Toute d'impressionnabilité nerveuse, elle manquait absolument de mobiles moraux, dirigeant sa vie. Il l'avait cru du moins. Maintenant, il se sentait envahi de doutes, jeté en d'étranges perplexités. Une envie lui venait de s'éclairer, d'apprendre. Ils étaient seuls dans ce coin de la serre, sous la lumière rose des lanternes. À travers les portes, larges ouvertes, la musique irritante du quadrille battait la mesure à leurs oreilles, exaspérant leurs sensations, les disposant aux sentiments factices. Elle avait cessé de parler et gardait son attitude hautaine. Lui, alléché de curiosité, essayait de pénétrer cette âme, tardivement d'entr'ouverte. « Je ne vous comprends pas. J'avais cru... À Nice, vous m'aviez répondu si nettement. » Il hésita, embarrassé. « De grâce, Lizzie, expliquez-vous. » Il ne voyait pas le péril de ces questions. Madame de Crussol baissa les yeux pour dissimuler son expression triomphante. « Lizzie, répéta Georges, soyons sincères l'un vis-à-vis de l'autre. L'honnêteté et la franchise sauveront notre amitié. Me suis-je trompée en croyant que vous répudiez le passé ? Serait-il possible que... » « Que je vous aime encore ? » balbutiait-elle à son oreille, tandis qu'avec une ondulation caressante de la taille, elle se rapprochait de lui. « Mais grand enfant naïf, je n'ai jamais cessé de le faire. » Et tout bas, en termes éloquents et tendres, elle lui parla de cet amour qui toujours, chez elle, était demeuré vivant et fort. Après avoir tenté sa chair, elle employait la séduction du sentiment. Il l'écoutait, ému, attristé, regrettant de ne pas lui avoir confié la vérité, se repentant trop tard de l'explication qu'il avait provoquée. Il ne s'apercevait pas qu'elle mentait effrontément. Il ne devinait pas le plaisir pervers que lui causait cette lutte, sans scrupule, où elle pouvait déployer sa ruse naturelle et l'art subtil que la vie lui avait appris. « N'est-ce pas, Georges, vous aussi vous m'aimez toujours ?» Sa voix n'était plus qu'un bégaiement. Le sang du jeune homme affluait au cerveau, puis redescendait rapidement au cœur. Il se sentait saisi de remords. Il voulut parler, être sincère, et n'y parvint pas. Elle eut alors un rire victorieux et doux. Vraiment, à cette minute, elle l'aima par délectation de vanité. Elle pencha sa tête sur l'épaule de Georges, là où Geneviève avait posé la sienne. Il fit un mouvement pour l'en empêcher. « Lizzie, écoutez-moi d'abord, » balbutia-t-il. Mais elle répondit hardiment, « Je sais tout déjà, une amourette qui vous entrave. » « Je me charge d'arranger l'affaire et de parler à la petite. C'est ma faute, d'ailleurs, cette histoire-là. »«
Non, non, vous vous trompez !» cria Monsieur de Briard. « Je ne puis vous permettre !»
Il fut arrêté par un bruit de pas. Sortant des massifs qui les abritaient, Monsieur de Crussol venait de surgir. Il marchait indolemment, les mains dans ses poches, la cigarette aux lèvres.
Pourtant, il avait dû entendre les derniers mots prononcés. Cette apparition conjugale ne déconcerta nullement la comtesse. « Voilà, Albert, c'est parfait, car il est toujours d'excellents conseils. Venez, mon ami, nous avons un cas de conscience à vous soumettre. Le capitaine, ici présent, se trouve dans une impasse. » Georges eut un élan d'admiration pour tant d'audace qu'étouffa un haut-le-cœur de dégoût. Volontiers, il aurait troqué son grade contre la possibilité de s'enfuir. Toute émotion s'était dissipée. « Voyons, ma chère, de quoi s'agit-il » demanda M. de Crussol avec un sourire indulgent pour l'incartade de sa femme. « Expliquez-vous clairement. »«
Je vais le faire. M. de Briard s'est égaré en de vulgaires erreurs. Les naïvetés savantes d'une intrigante de province, la petite Maoule. » Emportée par un plaisir mauvais de vengeance, voulant détruire sous le dédain le prestige de Geneviève, Lizzie parlait avec une insolence qui dépassa le but. Georges se cabra et l'interrompit brusquement. « Vous vous méprenez, madame. Il n'y a ici ni vulgaires erreurs ni intrigues d'aucune sorte. Si je n'avais pas été arrêtée tout à l'heure, vous sauriez déjà que ce que vous stigmatisez d'amourette est un attachement sérieux.
Eh quoi, mon cher, devons-nous vous féliciter ? Demanda Albert avec une nuance de plaisir.
Voyons, racontez-moi votre affaire et n'écoutez pas ma femme.
Il insista affectueusement sur ce mot et ajouta : Elle a des préjugés d'un autre âge. Puis, d'un geste amical, il passa son bras sous celui de Georges et l'entraîna à l'écart. En les voyant s'éloigner ensemble dans cette attitude intime, la comtesse Lise eut un balbutiement silencieux de mépris. Mais sa vanité ferme, inébranlable, l'empêcha de sentir toute l'humiliation de sa défaite. Elle se redressa dans la conscience de sa force perverse et, très pâle sous son rouge, la laine courte, rentra dans la salle de bal. Au tournant de la porte, elle se croisa avec Geneviève, qui, d'une démarche de nymphe, se promenait au bras d'un cavalier qu'elle n'écoutait pas. Il y avait dans la personne de la jeune fille une harmonie majestueuse, sur son visage une tendresse pensive, quelque chose de pur, de doux, d'indéfinissable, qui la mettait au-dessus des violences et des ruses vulgaires qui défiguraient le cœur de Madame de Crussol. Celle-ci sentit, par une rapide intuition, cette supériorité intérieure, et son orgueil s'exaspéra. « J'aurai à vous parler, mademoiselle Maoule, » dit-elle d'une voix qui commandait. « Mais quand vous voudrez, madame, dois-je venir demain ?» répondit Geneviève avec une dignité polie, pourtant les yeux inquiets. « Non, attendez mes ordres, » répliqua brutalement la comtesse. « Alors ?» Satisfaite d'avoir traité en inférieure, d'avoir humilié publiquement celle qu'on avait pu lui préférer, elle traversa la salle et alla droit à Madame de Santenac qui causait avec Libine. « Ma chère, dit-elle, un grand malheur arrive et j'en suis responsable. Votre frère veut épouser Mademoiselle Maoule. Il faut le débarrasser de cette intrigante, car si nous n'avisons promptement, il est perdu. » Puis, se tournant vers Serge, avec un sourire plein de promesses, elle ajouta « Vous nous aiderez, n'est-ce pas ?» Si endurci que fut le russe, il trembla pour Geneviève. Une chose qu'il ne connaissait pas et qui ressemblait à un remords frissonna dans son âme.